La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri. La mêlée de l'info. Une émission de débat sur l'actualité nationale, animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Radio Présence et de la mêlée de l'info pour nos débats consacrés à l'actualité nationale, avec trois invités comme d'habitude dans cette émission. Je salue tout d'abord Monique Iborra, ex-députée de la Haute-Garonne, soutien d'Emmanuel Macron. Je salue également Julien Klotz, conseiller départemental de la Haute-Garonne, membre du Parti Socialiste. Et puis je salue le retour à la mêlée de l'info de Nicolas Bonleu, président de l'UDR 31, l'Union des droites pour la République, et président de l'association Ligne droite 31. Bienvenue également à vous trois, merci d'avoir accepté mon invitation. Nos auditeurs ont sans doute entendu parler de ce qu'Emmanuel Macron a appelé une « labellisation des médias ». Le JDD a titré en une dimanche dernier « Emmanuel Macron vers un contrôle de l'information » en référence à cette proposition présentée par le chef de l'État le 19 novembre devant les lecteurs de la Voix du Nord. Il avait précisé l'esprit de ce label en déclarant que ce n'est pas le gouvernement ou l'État qui peut dire « ceci est une information, ceci n'en est pas ». On n'a pas non plus envie de tomber là-dedans parce que ce n'est pas ça une démocratie. Par contre, je pense que c'est important qu'il y ait une labellisation faite par des professionnels qui puissent dire « ceci correspond à la déontologie de gens qui manipulent de l'information ». Des propos qui ont suscité une levée de boucliers dans la classe politique et sur les réseaux sociaux. On a parlé de contrôle des médias, de dérive totalitaire du pouvoir. Et Emmanuel Macron et certains membres du gouvernement ont donc dû repréciser les choses mardi à l'issue du Conseil des ministres. Le président a indiqué qu'il n'avait jamais envisagé de créer un label d'État pour les médias et encore moins un ministère de la vérité, comme on a pu l'entendre. La porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon, déclarant pour sa part qu'il y a des initiatives portées notamment par les États généraux de l'information, mais que le gouvernement ne va pas créer tel ou tel label destiné à la presse. Comment avez-vous réagi, vous-même, en découvrant cette polémique et que vous inspire la possibilité d'une labellisation des médias selon des critères et par une instance qui reste à définir? Je pose d'abord la question à Monique Iborra.
Oui, bien écoutez, merci pour votre invitation. Les états généraux de l'information ont été mis en place déjà depuis maintenant 4 ans. C'est un journaliste qui l'animait, qui malheureusement est décédé il y a peu de temps. Mais les labellisations, et une labellisation en particulier, existent depuis 2019. C'est donc pas un terme qui est nouveau. Simplement, ce que je veux dire par rapport à la polémique que ça a finalement suscité. On sait très bien que dès qu'on parle des médias et dès qu'on parle quand on parle de labellisation, évidemment, on voit tout de suite ce qui a été dit d'une manière absolument fausse par par une des médias, CNews en particulier, hein, mais pas seulement, qui a sauté là-dessus en disant que finalement, parce que le président de la République osait évoquer ce problème qui est un problème majeur aujourd'hui, le problème de l'information, on sait très bien, qui est au milieu finalement des réseaux sociaux qui, eux, ont la possibilité de dire tout et leur contraire, vouloir en effet avoir des médias sur lesquels on peut compter, sur la probité desquels on peut compter, évidemment, le problème est de savoir qui labellise, pourquoi faire, et finalement, que labellise-t-on en fait ? C'est ça qui est important.
C'est ce que je disais, selon quels critères ?
C'est un sujet,
c'est quoi les critères,
oui,
de labellisation ?
Mais on fait comme si on le découvrait. Il y a des journalistes et des associations qui travaillent, y compris avec des politiques. Moi, je peux vous dire que pour les états généraux de l'information, quand j'étais encore donc à l'Assemblée, on avait des groupes de travail et on a auditionné un nombre de médias très important pour nous-mêmes nous faire une idée et participer ensuite avec un rapport qui n'était qu'un rapport des députés, un rapport qu'on devait soumettre aux états généraux de l'information. Ça n'a pas pu être fait, on n'a pas eu le temps de le faire. Ceci dit, je trouve quand même assez lamentable. Il suffit quand même que le président dise quelque chose alors qu'on a eu la preuve et que vos auditeurs, comme tout le monde, en a pu entendre. Vous l'avez cité, vous êtes un des seuls journalistes qui a cité vraiment tout ce qu'a dit le président. Il a bien dit, il a même dit à un moment donné, on l'a vu, on l'a entendu, il a même dit, si c'était l'État qui le mettait en place, ce serait une dictature. C'est ce qu'il a dit. Et l'accuser vraiment de vouloir labelliser pour mettre en place finalement un contrôle des journalistes, et évidemment, c'était une fausse information. Et je crois que les citoyens ont le droit d'avoir des médias, et on pourra en parler, le secteur public peut être concerné comme le secteur privé.
Hein. On en parle beaucoup en ce moment.
Et je ne veux pas citer uniquement le secteur privé. Je crois que le secteur public a besoin aussi de montrer que finalement cette loi de 1881,
la loi sur la liberté de la presse
1881, qui a besoin sans doute, qui a dû être modifiée, mais qui a besoin de l'être probablement, étant donné la révolution que nous vivons avec le numérique. Je pense que ce soit les médias publics ou les médias privés, on a besoin d'ouvrir un débat aux citoyens. Je crois que ça me paraît important.
Je crois qu'il est en train de s'ouvrir de lui-même. Alors, Nicolas Bonleu, je ne suis pas certain que vous serez complètement d'accord avec ce qu'a dit Monique Iborra, mais bon, je vais peut-être être étonné.
Merci de votre invitation. Bonsoir. Il y a un proverbe chinois qui dit « Le plus important dans ce qu'on doit entendre, c'est justement ce qu'on n'a pas envie d'entendre. » Et on assiste aujourd'hui à une position d'un régime qui se recroqueville, qui n'a pas le courage de continuer à entendre ce qu'il doit entendre. Un régime qui préfère sa propre réalité que s'affronter à la réalité que reflètent notamment les médias. La liberté d'opinion, la liberté d'expression, son corollaire, la liberté de la presse sont des fondements de notre démocratie. Notre démocratie est fondée en particulier sur le débat contradictoire comme mode de prise de décision. Refuser le débat contradictoire, c'est nier un des principes fondateurs de notre démocratie. Nous avons aujourd'hui une loi qui existe, une loi qui punit, qui interdit les fausses informations. Appliquons la loi, appliquez cette loi. Ça permet déjà de trier le paysage de l'information. Pour le reste, nos concitoyens ont les préférences qu'ils ont pour les médias qu'ils écoutent ou qu'ils regardent. Laissons-les libres de choisir. Ne créons pas d'organismes, je dirais, supplémentaires de contrôle. On connaît l'efficacité des organismes de contrôle aujourd'hui dans les médias. On voit bien que l'ARCOM, par exemple, est impuissante dans la plupart des cas à garantir la neutralité du contenu de l'information. Ne faisons pas supporter aux contribuables encore les coûts d'un organisme qui sera inefficace. Restons simples et restons respectueux de la liberté de nos concitoyens. Contrairement à ce qui a été dit, le risque de dérive d'instituer un organisme de contrôle, même si ce n'est pas à l'origine son ambition ou son principe, encore qu'on peut en discuter, mais même si ça ne l'était pas, le risque de dérive d'un organisme de contrôle et qui aurait pour résultat qu'à la fin, certains médias sont autorisés, d'autres non, est trop important pour que nous puissions le prendre aujourd'hui.
Alors, on va poursuivre avec Julien Clos. Je voulais juste préciser, avant de vous passer la parole, Julien, que le discours d'Emmanuel Macron, ce fameux discours du 19 novembre devant les... Enfin, c'était des questions-réponses. Hein, il y avait plusieurs intervenants avec les lecteurs, les gens invités par La Voix du Nord. Il est disponible sur le site vive-public.fr. Voilà, c'est un site gouvernemental. On peut le lire in extenso. Donc, comme ça, chacun peut se faire son idée de ce qu'a dit précisément le président. Julien Clos, vous, votre avis?
Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, je voulais exprimer ma stupéfaction de voir un groupe de médias accusé d'atteinte à la démocratie le président, alors que dans leur prise de position eux-mêmes, je considère aujourd'hui que ce sont eux qui mettent la démocratie en danger, notamment la chaîne de télévision CNews, dont on peut se demander aujourd'hui si c'est toujours un média d'information ou si c'est pas plutôt un média d'opinion. Voilà, donc ça c'est premier point. Mais donc ensuite la position de Monsieur Macron. Alors il a posé une vraie question et que je partage tout à fait. C'est le risque que représentent les réseaux sociaux et certains médias sur la démocratie.
Certains sites d'information.
Ouais. Voilà, certains sites d'information, c'est quelque chose d'essentiel. Donc voilà. Après la réponse qu'il a apportée. Ma position vis-à-vis de M. Macron, je trouve qu'il a toujours des comportements verticaux. Alors moi qui suis par ailleurs syndicaliste, je vois les dégâts qu'il a fait dans le fonctionnement du dialogue social dans les entreprises avec les ordonnances qu'il a faites. Donc il a contribué à affaiblir largement les partenaires sociaux. Donc la solution qu'il propose pour moi n'est pas forcément la bonne. En tout cas l'enjeu qu'il mentionne est important et donc ça mérite qu'on en discute de manière sincère. Mais pour moi, donc, les solutions reviendraient plutôt que de mettre une labellisation. C'est, en fait, il y a déjà un certain nombre d'outils qui existent. Donc, renforcer l'ARCOM, dont vous avez dit. Donc, c'est un outil qui fonctionne déjà. C'est une autorité publique française. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne conteste son travail, qui décerne des amendes quand il y a des dérives, etc. Donc, on peut améliorer, moduler, etc. Mais néanmoins, en tout cas, c'est un organisme qui existe déjà et qui fait du travail. Ensuite, il y a la question de la concentration des médias. Et en fait, on parle beaucoup aujourd'hui de ce qui s'est passé. Il y a d'autres, et donc des possessions de médias de M. Bolloré, mais en fait, il y a d'autres grands industriels et de capitalistes qui possèdent des médias. Donc, il y a Bernard Arnault, Daniel Kretinsky, Xavier Niel, Rodolphe Saadé.
Mathieu Pigasse,
etc.
On peut le citer aussi.
Tout à fait, je ne le mets pas dans ma liste, mais voilà, on peut compléter. Ce qui se passe, la seule différence qu'il y a aujourd'hui, c'est que le groupe Bolloré, lui, en fait, il a une politique d'interventionnisme dans la ligne éditoriale. Et donc, ce qui peut être fait, donc il peut y avoir...
On sait que ce n'est pas le cas des autres.
Je ne pense pas, non. Je ne pense pas. En tout cas, ce qui peut être fait, du coup, bah, c'est peut-être que ça se passe aussi. En tout cas, donc, ce qui peut être fait aussi, c'est travailler sur une modification de la gouvernance des médias, avec par exemple l'instauration d'un organe de gouvernance paritaire composé de à moitié de salariés des médias, bien sûr, et l'autre moitié par le propriétaire ou la propriétaire, voilà, qui permettrait d'avoir quelque chose de plus équilibré aujourd'hui. Voilà. Et puis, deux derniers points, je ne vais pas être trop long, mais deux derniers points. C'est une vraie question, c'est la survie des médias. Des médias qui, en fait, ont des soucis financiers aujourd'hui. En fait, je ne suis pas expert du domaine, mais je crois que tous les médias sont déficitaires.
Oui, d'ailleurs, la plupart, beaucoup, toutes les subventions de l'État, y compris, des journaux comme Le Figaro, Le Monde, tout ça, c'est, on peut le regarder.
Tout à fait. Et donc, je pense que le questionnement, en tout cas, la pluralité est indispensable. Et donc, il faut veiller à ce que cette pluralité se poursuive. Alors, on entend parler aux États-Unis que les États-Unis se transforment en désert de l'information, en tout cas dans les médias locaux, en fait, qui disparaissent dans un certain nombre d'endroits.
Ce qu'on appelle la PQR chez nous, vous voulez dire l'équivalent de la PQR.
L'équivalent de la PQR, merci.
La presse quotidienne régionale, je traduis.
Donc, qui disparaît. Donc, il y a quand même un enjeu démocratique vraiment à faire vivre. Et pour finir, quelque chose qui est quand même fondamental, c'est l'éducation, l'éducation et le développement de l'esprit critique qui peut aussi aider en complément à faire en sorte que notre démocratie fonctionne bien et que chacun puisse prendre écouter les différents médias et se faire leur propre opinion là-dessus. Voilà.
Alors évidemment, Monique Iborra veut réagir aux deux précédentes interventions.
Non, je réagis en effet à ce qui a été dit. On a l'impression que ce que vous dites finalement, on n'a besoin de rien, quoi, tout se passe bien, on est satisfait, les citoyens sont satisfaits des médias. Vous avez vu les sondages, je ne sais pas si vous avez vu les sondages, de l'avis des citoyens sur les médias, il est loin d'être satisfaisant.
C'est pas nouveau, ça.
Non,
il y a longtemps qu'on se défie des médias en France.
Je dis pas que c'est nouveau, mais c'est une réalité.
Il faut pas s'en réjouir non plus, évidemment. Oui, c'est une vraie question.
Alors, comme l'information, c'est pas pour les journalistes, c'est pas pour les politiques, c'est aussi et surtout pour les citoyens, il est normal qu'on tienne compte de ce qu'ils pensent des médias aujourd'hui, tels qu'elles sont organisées. Ceci dit, je crois qu'en effet, dans une démocratie qui s'assume comme étant une démocratie, évidemment, le droit d'expression doit être garanti, et en particulier de ceux qui donnent des informations. Ce qui ne veut pas dire qu'on puisse autoriser de fausses informations sans qu'il y ait qui que ce soit, sans qu'il y ait un contrôle qui détention, là, ou bien vous n'avez pas vérifié, ou bien vous dites des choses qui sont de fausses. D'autre part, on a toujours donc les réseaux sociaux, eux, alors qu'ils demandent d'autorisation à personne, ou pratiquement, et qui peuvent dire tout et n'importe quoi. Donc, ne pas tenir compte de cet environnement sociologique qui est relativement nouveau avec les réseaux sociaux et dire tout va bien, on a ce qu'il faut, on n'a pas à faire d'amende, ce n'est pas possible. Premièrement. Deuxièmement, moi je veux bien qu'on pense que tous les journalistes font correctement, font bien leur travail. Il n'y aurait que cette profession, en effet, où on ne trouverait pas de personnes qui ne font pas bien leur travail. Donc, à partir de là, c'est pas parce qu'on est journaliste qu'on a le droit de tout faire et de tout dire. De la même manière, c'est vrai aussi pour les politiques. Et c'est vrai pour tout le monde en démocratie. Donc, moi, ce qui m'agace un peu, je veux vous le dire, c'est qu'on a l'impression, en effet, que certains médias sont des médias qui s'adressent avec objectivité, c'est leur but, aux citoyens, et qui sont en effet des médias d'opinion. Il faut faire la différence entre ce qu'est une opinion et une information qui est fausse. C'est pas pareil. L'opinion, on peut l'entendre, une information fausse, on ne doit pas l'entendre. Eh bien, je crois qu'il y a beaucoup, finalement, de médias qui se présentent comme des médias généralistes, et donc qui doivent respecter la pluralité, le débat. Ils ne le respectent pas, et surtout qui sont des journalistes d'opinion, des médias d'opinion, mais qui ne le disent pas. Et ça, je trouve que c'est anormal, parce que c'est de la manipulation. On peut parfaitement, et on le sait, en faisant de l'information, faire de la manipulation. Le métier de journaliste, moi j'ai beaucoup d'admiration, je vous le dis franchement, pour le métier de journaliste, parce que je considère que ça doit être un métier très difficile. Très difficile si on veut le faire comme on doit le faire, correctement. La plupart du temps, moi, ce que j'en vois, ce que j'entends avec mon prisme à moi, qui n'est pas un prisme neutre, hein, de toute manière, c'est que finalement, on peut, en étant journaliste, on peut être tellement engagé, et on a le droit d'être engagé politiquement, on a le droit d'être engagé philosophiquement, mais ils sont tellement engagés qui font passer leur engagement dans les informations qu'ils donnent.
Et dans ce cas-là, il faut être dans un média d'opinion et pas dans un média d'information, c'est ce que vous voulez dire.
Et ça, c'est très dangereux. Dernière chose, après je me tairai, dernière chose que je voudrais dire, Bah, je dirai tout à l'heure.
Oui, que vous voulez. Il y a une chose tout de même, c'est que, comme l'ont dit Nicolas Bonleu et même Julien Clos, il existe déjà l'ARCOM. Julien Clos dirait qu'il faudra peut-être lui donner encore plus de moyens. Sous-entendu, est-ce qu'il est nécessaire d'aller vers une labellisation des médias? Est-ce que développer les moyens de l'ARCOM, lui donner peut-être d'autres prérogatives, responsabilités, ne suffirait pas? Vous pensez qu'il faut vraiment créer, comme le veut Emmanuel Macron, un label? On va discuter après de savoir à quoi ça pourrait
ressembler. Il faut voir le contenu du label. Il faut voir le contenu, ça c'est important en effet.
Mais l'ARCOM n'est pas suffisante pour vous, telle qu'elle existe aujourd'hui?
Non.
Nicolas Bonleu.
Oui, est-ce que vous me permettez de réagir?
Bien sûr, vous êtes là pour ça.
Vous parlez du métier de journaliste dont la noble tâche est d'éclairer l'opinion. Et moi, je souscris tout à fait à cette vue. Vous parliez du mécontentement du public français, du citoyen français par rapport aux médias. Ce n'est pas vrai de tous les médias. Il y a des médias qui gagnent en audience de façon spectaculaire depuis quelques années. Les médias qui, justement...
Pourquoi ?
Qui s'affranchissent de la pensée dominante, qui s'affranchissent du discours dominant des autres médias qui, eux, alors qu'ils prétendent faire de l'information, font de l'opinion. Moi, je pense, par exemple, au réseau de services publics. Les réseaux de services publics sont supposés à avoir vocation, à avoir une information neutre, objective. Je rappelle qu'ils sont payés par nos impôts, contrairement à d'autres médias qui sont payés par...
Ils ont une obligation au pluralisme aussi.
Et on sait bien, et même l'ARCOM le reconnaît, que ces médias-là, d'information, de service public, ne respectent pas leur engagement de pluralisme. Et c'est comme ça que j'analyse, moi, ce grand succès des médias qui sont... peut-être un peu plus d'opinion, en tout cas affichés comme étant d'opinion, que ceux qui sont affichés comme étant des médias d'information, puisque le public s'aperçoit que même les médias d'information, même ceux de service public, sont en réalité des médias d'opinion. Et donc, en réalité, tous les médias sont des médias d'opinion.
Mais ça explique
le succès des médias d'opinion qui sortent des sentiers battus, si j'ose dire, et de l'opinion dominante. Donc, je pense que c'est important de le dire. Et c'est important aussi, puisqu'on parlait de l'ARCOM, de rappeler l'impuissance de l'ARCOM à lutter contre cela. Et donc, renforcer l'ARCOM, si c'est renforcer son impuissance, En augmentant les coûts, en augmentant les impôts des Français, non, je ne vois pas l'intérêt. D'autant que, je le rappelle, le vrai danger dans l'information, la vraie chose qu'on peut contrôler, c'est la fausseté de l'information. Il y a déjà une loi aujourd'hui qui condamne la fausseté de l'information, qui prévient la fausseté de l'information.
Oui, et puis concernant la déontologie chez les journalistes, je rappelle qu'il existe quelque chose qui s'appelle la commission de la carte de presse. Alors maintenant, est-ce que ça fonctionne bien? Pour rejoindre un peu Julien Clotz en parlant de l'ARCOM, ça c'est peut-être moins sûr. Julien Clotz.
Oui, alors moi je voudrais réagir au propos de M. Bonleu qui dit qu'aujourd'hui ce qui se passe est satisfaisant et qu'en fait il y a un discours dominant aujourd'hui qui se sent menacé parce que contesté par un autre discours. Mais en fait ce que vous dites c'est que vous aimeriez que cet autre discours devienne dominant et à ce moment-là vous seriez complètement satisfait. Cet autre discours dominant...
Je suis pas certain qu'il ait dit ça.
Mon interprétation et on est dans un débat.
Vous l'interprétez comme ça.
Aujourd'hui, en tout cas moi je rejoins... Madame Iborra sur en tout cas l'inquiétude qu'elle a. Vous dites l'ARCOM que les médias publics ne sont pas objectifs. Alors à ma connaissance, il n'y a eu aucune condamnation des médias publics par l'ARCOM.
C'est ce que je dis.
Ça veut dire que vous questionnez l'intégrité de l'ARCOM, en fait.
La capacité de l'ARCOM à mener à bien sa mission, c'est exactement ce que je dis.
Ah ben d'accord, donc ça veut dire que...
Les médias publics aujourd'hui sont auditionnés par l'ARCOM, il y a des auditions qui sont en cours, il y a des choses qui ont été pointées, on verra ce qu'il en sortira. Je pense qu'il ne faut pas faire de procès d'intention non plus.
Donc, au-delà des opinions, il y a quelque chose, donc moi je suis ingénieur par ailleurs de formation, il y a la méthode, la manière de procéder. Donc le fait de faire du pluralisme, le fait de donner ses sources. Et donc, manifestement, par exemple, sur CNews, la part des sources d'information par rapport au volume d'émissions et de discours qui sont prononcés est marginale. Donc, dans un monde un peu scientifique, un peu organisé, il y a des choses qui s'appellent des normes, des standards. On peut tout à fait mettre en place, proposer que ça soit une norme comme ça peut se faire au niveau mondial, avec une norme ISO, par exemple, ISO 9001 pour la qualité, etc. Avoir une norme qui décrit ce que devrait être un média qui fournit des données qui soient suffisamment bien sourcées. Voilà, donc une question de méthodologie, notamment dans la partie source. Je trouve que ça, c'est un point fondamental, parce que c'est ça qui fait la différence. Il est difficile de propager des fausses informations si on donne des sources fiables.
En tout cas, on sait d'où elles viennent. Donc, comme ça, on peut voir si elles sont orientées.
Voilà, donc c'est pour ça que je rejoins la position de dire, alors une labellisation, j'en sais rien, mais en tout cas, comme ça avait été proposé par une initiative Journalisme Trust, initiative de Reporters sans frontières, mise en place de cabinets d'audit avec une méthodologie, je trouve que ça serait quelque chose de tout à fait pertinent.
Signalé par Emmanuel Macron.
Oui.
Monique Iborra.
Vous savez...
Alors, s'il y avait un label, alors, est-ce que vous avez une idée de quels seraient les critères à retenir? Julien Clos donne des pistes.
Julien Clos l'a bien dit, déjà. Il ne s'agit pas de juger le journaliste, de juger l'opinion du journaliste, pour peu qu'il le présente comme étant une opinion, et pas comme quelque chose qui peut s'imposer à d'autres. Mais il s'agit finalement, je prends l'exemple des médecins, ça n'a rien à voir avec les journalistes, mais il y a des conférences de consensus qui font que la profession elle-même échange. Et donc, après, sur une maladie particulière, échange sur un processus, comment on arrive à faire ce diagnostic, pourquoi le diagnostic tel qu'il est fait est un diagnostic qui peut s'imposer à d'autres, et quel traitement on peut mettre en place. Ça, voilà. Alors, ça, c'est, évidemment, ce n'est pas la profession de journaliste. Mais il s'agit d'une démarche. Il s'agit de citer les démarches et il s'agit de vérifier qu'elle soit faite. C'est une labellisation. Il y a des labellisations dans beaucoup d'autres domaines. Dans le domaine social, il y en a. Pourquoi il n'y en aurait-il pas dans le domaine de l'information telle qu'elle se présente aujourd'hui aux citoyens? Tout ce qui existe sur le complotisme, par exemple, qu'on voit décrit tous les jours sur les réseaux sociaux, pour quelqu'un qui lit, je prends la vaccination, mais on pourrait prendre plein d'autres choses. Et je pense qu'il y en a un qui peut en parler avec son épouse, c'est quand même le président de la République. Hein ? Quand même. Bon, il est en droit de pouvoir en parler, parce qu'ils ont été eux-mêmes montrés du doigt. Et ça, évidemment, on considère qu'on n'en parle pas. Donc, si vous voulez, alors qu'on a ce genre de choses sur les réseaux sociaux, comment ne pas penser à parfaire, sans juger la personne qui donne l'information, par une labellisation? Après, évidemment, il faut savoir qui va contrôler cette labellisation.
C'est la question que j'allais vous poser, mais qui va faire ça?
Eh bien, écoutez, c'est un débat qui est ouvert, mais il faut en parler. On ne peut pas ne pas en parler, sans faire des polémiques et dire des choses qui sont fausses. Là, CNews, je le regrette, et le JDD, ils ont manipulé l'information sur ce thème-là. Je ne dis pas que ça ne se fait pas ailleurs. Je ne le dis pas, parce que je sais que ça se fait aussi ailleurs, sous une forme différente. Mais là, ils ont démontré à quel point les deux, parce que c'est essentiellement les deux quand même, les autres après posent la question de savoir est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas dangereux, on peut tout entendre. Mais là, ils ont démontré à quel point ils pouvaient manipuler l'information.
Nicolas, bon, vous voulez répondre, je suppose, à ce qui vient d'être dit.
Mais d'abord, je veux répondre sur vous disiez que vous interprétez que je serais heureux que tous les médias promeuvent les idées auxquelles je crois et pas les idées auxquelles je ne crois pas qui sont aujourd'hui dans les médias, celles auxquelles je ne crois pas, celles qui sont promues de façon dominante. Évidemment que moi, je serais heureux que les médias reflètent beaucoup plus l'opinion des citoyens, des électeurs français, plutôt qu'une autre opinion, ce qui est le cas aujourd'hui. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est la pluralité. S'assurer que la pluralité de l'information est garantie. Et vous m'attribuez les mots que tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Et je partage vos constats à tous les deux, que le manque, par exemple, de capacité de nos concitoyens à prendre du recul, le manque d'éducation parfois, le manque de capacité de jugement qui remonte à très loin et qui demanderait encore d'autres débats, les rend plus vulnérables, nos concitoyens, à la fausseté des informations ou à la surinterprétation des informations. Une fois qu'on a dit ça, Quelle est la solution et comment on améliore la situation? Je le répète, ce n'est pas en contrôlant plus qu'on va améliorer cette situation. L'ARCOM, non. Je le redis, l'ARCOM n'est pas capable aujourd'hui de garantir la neutralité du service public. Une étude indépendante montre que France Inter, France Culture accordent plus de 60% du temps de parole à des personnes de gauche. C'est bien un signe de l'impuissance de l'ARCOM. Si c'est mettre plus de gens à l'ARCOM pour qu'ils soient toujours impuissants, je ne vois pas l'intérêt. Et vous prenez l'exemple des médecins. Moi, je vais prendre un autre exemple d'une profession qui est aujourd'hui étouffée par les contrôles et dont on voit que les multiplications des contrôles sur son destin sont devenues complètement néfastes. Prenez la profession des agriculteurs. Il se trouve que dans ma famille, on est agriculteur. Je le suis moi-même. Aujourd'hui, vous avez des contrôleurs, plus de contrôleurs que d'agriculteurs. Une agriculture qui étouffe, qui ne va pas mieux du tout.
Non, mais je... oui.
Et on voit bien que multiplier les contrôles, multiplier les normes, ça tue in fine ceux qui font le travail. Et donc, les journalistes font leur travail plus ou moins bien. Moi, j'ai beaucoup de respect pour eux. Je reconnais que ce n'est pas une tâche facile. Comme partout, dans toutes les professions, il y en a qui le font avec conscience et d'autres avec moins de conscience, évidemment. Est-ce que c'est une raison pour mettre plus de contrôles? Non, certainement pas.
Julien Clotz, on va terminer sur ce sujet avec vous. Alors, sur l'idée de la création d'une instance qui contrôlerait, qui attribuerait un label, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, on verra. Ça pourrait être qui? Qui pourrait faire ça selon vous? Je m'adresse à l'ingénieur.
Ah oui, alors oui. Alors, après, je connais certains organismes de certification. Souvent, les professions, comme Mme Iborra l'évoquait, les professions s'organisent pour mettre en place des normes pour leur métier. Alors, moi, je suis dans l'aéro. Dans l'aéro, bah, c'est les entreprises d'aéro qui se réunissent et qui définissent ensemble leurs normes. Donc, moi, je pense que ça pourrait être quelque chose...
Les médecins,
ça serait un collège de...
Oui, ça serait un collège
comme
ça. Et qui pourrait être, au-delà de la France, ça pourrait être quelque chose d'européen. Même, je pense que ça
serait...
Alors,
c'est vrai que c'est une question que j'allais poser, ça. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être quelque chose qui... Vous parlez de normes. Ce serait des normes européennes ou des normes franco-françaises?
Alors, je pense que ça aurait tout son sens que ça soit européen. On a une Cour de justice européenne. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent se mettre au même niveau, en fait. Je pense que ça serait intéressant de le faire au niveau de l'Europe. Alors, par contre, je me permets quand même de réagir.
Bien sûr, oui,
L'ARCOM
avez,
ne fait pas bien son,
vous
son, son travail. 60% du temps de parole à des personnes de gauche sur les médias publics. Et vous avez la même statistique sur CNews, sur Europe 1, pour les personnes de droite. Enfin, je suis désolé. L'ARCOM, Autorité des Réunions, a mis au point Europe 1 le 27 juin, alors c'était 2024, de respecter ses obligations de mesure d'honnêteté et d'honnêteté en pointant la virulence de l'émission à l'égard du nouveau Front populaire. Voilà. Donc... voilà, c'est non, encore une fois, alors, c'est on met en avant ce qui nous semble.
J'ai pas dit que l'ARCOM faisait mal son travail avec tous les médias.
Ouais.
Vous aurez reconnu qu'il y a certains médias avec lesquels l'ARCOM fait mieux son travail que d'autres.
Ah non, moi je considère qu'elle le fait bien parce qu'elle pointe là où il y a des dérives.
Oui.
D'un certain côté.
Ah, c'est votre avis.
Oui, il y a eu effectivement un épisode récent. Vous avez tous entendu parler de cette émission complément d'enquête qui était consacrée justement à CNews. Et l'ARCOM a fait retirer une partie de cette émission qui a été retirée au dernier moment par la direction de France Télévisions parce que justement, et c'était fait par Reporters sans frontières justement, bon, quelqu'un issu de Reporters sans frontières, il y avait des informations concernant CNews qui n'étaient pas bonnes, notamment concernant la répartition des intervenants et des invités dans les émissions de CNews. Donc bon, mais ça montre aussi que l'ARCOM fait son travail. Et
moi,
ça me semble important de
souligner. Il est quand même payé pour ça. Hein, ouais. Donc qu'il fasse son travail.
Parce que non, après, justement, c'est la remise en cause de la justice, c'est la remise en cause. Voilà, si ce que telle personne fait, ça ne me convient pas, c'est qu'il ne fait pas bien son travail. Ce discours-là, il est très dangereux. Pardon.
Non, Monique, je voudrais ajouter que... Ce type de conférence de consensus, moi j'appelle ça comme ça.
Pourquoi pas, bon,
qui n'est pas encore une fois de faire des contrôles tout venant. C'est pas le contrôle bête et méchant.
Ça serait une usine à gaz.
C'est d'écrire une démarche qui arrive à faire. Et je pense que si ce genre de choses pouvait être introduit dans les écoles, à Sciences Po, pourquoi pas à Sciences Po, école de journalisme, eh bien, ça aiderait beaucoup la démocratie. Ce qui n'est pas, je crois, le cas aujourd'hui.
Oui, effectivement, je pense qu'il faudrait y mettre le nez dans les écoles de journalisme. Vous n'avez pas tort.
Bon,
en tout cas, bon, la polémique, on a pu le constater en vous écoutant, on n'est pas retombé. On reste à savoir si la proposition d'Emmanuel Macron débouchera bien sur la création d'un label pour les médias, sous quelle forme et attribué par qui. Il y a beaucoup de questions en suspens. Nous aussi, nous allons suspendre cette émission alors pour une toute petite pause d'une vingtaine de secondes. A tout de suite.
La mêlée de l'info, Éric Dupri.
Et nous revoici, je retrouve mes trois invités, Monique Iborra, Nicolas Bonleu et Julien Klotz, avec un sujet qui ne concerne pas la liberté de la presse, celui-ci, mais plutôt la possibilité de se rassembler à l'occasion de grands événements festifs. Pour des raisons de sécurité, il n'y aura pas de concert. Le soir du 31 décembre sur les Champs-Élysées, la préfecture de police a demandé à la mairie de Paris d'y renoncer cette année. Elle veut, c'est ce qu'elle a dit en tout cas, minimiser les risques en évitant les grands regroupements lors de cette soirée pendant laquelle il y a tout de même jusqu'à 1 million de personnes qui peuvent se promener sur les champs et dans les rues adjacentes. Cette demande a été acceptée par Anne Hidalgo. En revanche, le feu d'artifice de minuit est bien maintenu. Est-ce que vous comprenez le choix d'annuler cet événement compte tenu des raisons qui ont été invoquées pour justifier cette décision? Nicolas Bonleu.
Écoutez, on assiste à un pas de plus dans l'affaissement du régime. Le régime renonce à assurer la sécurité de nos concitoyens. Le régime préfère sacrifier le bonheur, les moments de joie des honnêtes gens qui viennent en famille assister à une fête à la menace d'une poignée de casseurs, de terroristes, de brigands. Et parce que finalement, c'est beaucoup plus compliqué d'assurer la protection des honnêtes gens plutôt que d'arrêter les casseurs. Et oui, c'est compliqué. On sait que c'est compliqué aujourd'hui. Chaque jour qui passe rend le sujet plus compliqué. La tâche des policiers est chaque jour plus compliquée, compliquée avec des tâches administratives. Le système judiciaire, faire en sorte que le système judiciaire ne relâche pas à un moment ou à un autre les casseurs qui ont été arrêtés par les policiers, c'est compliqué. Tous ces efforts-là, tous ces efforts que demanderait un régime volontaire allant de l'avant, un régime combatif, tous ces efforts-là, le régime y renonce. Et donc je me pose la question, quel sera le prochain renoncement? Renoncer de protéger les honnêtes citoyens qui marchent dans la rue la nuit, et donc on nous demandera de rester chez nous, parce que c'est trop compliqué de nous protéger la nuit.
Oui, alors effectivement, il y a eu des réactions comme celle-ci. Julien Klotz, vous, qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, est-ce que vous comprenez qu'Anne Hidalgo ait donné suite à la demande de la préfecture de police de Paris et donc annulé cet événement?
Alors, il n'y a jamais... Enfin, considérer qu'il y a des réponses simples à un certain nombre de questions, sont en général des mauvaises réponses. Donc je vais être nuancé dans ma réponse. La première, c'est que quand on organise un événement et qu'il y a une catastrophe qui se produit, tout de suite on retombe sur l'organisateur en lui disant « c'est de votre faute, vous aviez qu'à prévoir ». Voilà. Donc,
souvent c'est un élu.
Et souvent, c'est, je ne dis pas ça pour ça.
Non, effectivement,
souvent c'est un élu.
C'est la réalité.
Tout à fait. Donc je pense que Anne Hidalgo a eu tout à fait raison de prendre acte de ce qui était posé par la préfecture. Je comprends bien. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, par contre, c'est et je vais élargir un peu le propos, c'est la limitation des manifestations sur la voie publique. Alors moi, je parle pas seulement pour un concert, mais de manière générale, un certain nombre de manifestations ont été interdites pour différents titres sur le territoire au cours de l'année 2025, notamment autour du soutien à la Palestine, mais pas seulement, et aussi sur des manifestations autour de l'écologie. Oui. Et ces restrictions de manifestations sur la voie publique, je trouve, je vous rejoins là-dessus, pour une fois, c'est une menace pour la démocratie. Voilà. Donc, il y a vraiment, je pense, vraiment là un enjeu qui dépasse cette simple manifestation. Les préfectures, aujourd'hui, abusent de leur pouvoir de limitation des manifestations. Mais pourquoi la préfecture a prononcé cette interdiction? C'est parce que... pour des problèmes de heurts possibles avec des...
Oui, et puis d'effectifs pour contrôler, pour être sûr de contrôler l'espace. Parce qu'au même moment, partout en France, voilà. Il y a aussi des risques. Il faut des effectifs de force de l'ordre.
Je voudrais justement terminer par un point. C'est en fait, aujourd'hui, déjà, si on pouvait faire en sorte qu'il y ait moins de tensions dans la société et donc moins de casseurs, si on pouvait pacifier notre société, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous citiez dans votre document de préparation Bruno Retailleau qui regrettait la décision. Je pense que M. Retailleau, quand il était ministre, il n'a pas fait grand-chose pour pacifier les relations au sein de notre pays. Pour moi, aujourd'hui, il y a un vrai enjeu à faire en sorte de réconcilier toutes et tous entre la police et la population. La police a un rôle important, et je pense que tout le monde reconnaît l'importance du rôle, et parfois questionne, certaines pratiques. Voilà. Et ben, je pense que ça serait fondamental aujourd'hui de retisser un lien entre la police et la population, et pacifier la population, modifier les pratiques d'intervention comme le font d'autres pays d'Europe, l'Angleterre, ou les Pays-Bas, etc., ou l'Allemagne, où les manifestations sont beaucoup plus pacifistes. Je pense qu'en faisant ça, déjà, on aurait peut-être moins de problèmes de casseurs, et peut-être que du coup, on aurait pu écouter un bon concert sur les Champs-Élysées.
Oui, alors il va falloir après qu'on pose cette question. Qu'est-ce que ça dit de l'état de notre société, le fait qu'on renonce à organiser des événements comme celui-ci? Monique Iborra, vous comprenez la décision d'Anne Hidalgo et aussi ce qui a été préconisé par la préfecture de police de Paris?
Moi, je n'ai pas les éléments. Je ne connais pas les éléments effectifs qui ont fait prendre cette décision. Moi, ce que je vois, c'est que aujourd'hui, on entend parler quand même de problèmes de terrorisme. On n'est pas
à l'abri, c'est sûr. Alors,
absolument, on n'est pas à l'abri. On entend bien, et ça ne vient pas forcément de l'extrême droite, ça vient du ministre de l'Intérieur. Moi, le ministre de l'Intérieur actuel, fais confiance. S'il le dit, c'est qu'il doit y avoir quand même quelque chose qui, sans nous inquiéter à outrance, parce qu'il faut continuer à vivre, en effet, et c'est un événement important dont on parle, populaire. S'ils le disent et s'ils prennent des décisions, moi, je n'ai pas les éléments pour dire c'est des décisions. Je trouve que vous êtes... excusez-moi, dans le cas particulier, vous êtes alarmiste, mais vous êtes d'abord, votre réponse, elle est d'abord politique et en particulier représentative de ce que vous représentez. C'est votre affaire, mais on peut ne pas être d'accord avec vous. Par contre, moi, ce que je remarque, c'est que ce qui est dit, ce que j'ai entendu au-delà du terrorisme, c'est que le lieu même des Champs-Élysées, alors qu'il y a autour des petites rues,
oui, toutes les petites rues voisines,
qui peuvent faire en sorte que des gens qui veulent mettre le trouble puissent finalement ne pas être poursuivis.
Oui.
Voilà, moi personnellement, surtout que là, finalement, le feu d'artifice
est maintenu. Oui.
Oui. Moi, je pense que, étant donné que je n'ai pas les éléments, je pense que je suis d'accord avec ce qui a été décidé.
On imagine même qu'Anne Hidalgo ait décidé d'annuler cet événement.
Mais ce n'est pas elle qui l'a décidé.
C'est le maire qui a quand même la décision à la fin.
Oui, mais comment voulez-vous qu'elle aille contre le préfet?
Je crois pas que les événements festifs...
Dans le cas particulier.
Elle a dû faire un peu la mort dans l'âme. Mais tout de même, par rapport à ce qu'a dit Nicolas Bonleu et aussi Julien Clos, ça dit quand même quelque chose de l'état de notre société. Ça, pour qu'on ne puisse plus organiser des événements comme ça,
ça. Mais bien sûr, c'est la réalité de notre société.
Oui.
Et la réalité, c'est celle-là. On peut avoir des recrudescences du terrorisme. On a la guerre à la porte de l'Europe. On a des partis politiques extrémistes, qu'ils soient à gauche ou qu'ils soient à droite. On est dans une société violente. On peut le déplorer. Il faut faire tout ce qu'on peut pour en effet régler la chose, mais elle existe.
Alors, est-ce qu'il aurait fallu, comme Nicolas Bonleu le préconise, et je reviens vers lui, là, mettre des moyens supplémentaires pour les forces de l'ordre, de manière à ce que cet événement ait tout de même lieu, avec les risques que ça peut comporter? Ou alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut plus prendre le risque d'organiser des rassemblements de cette taille?
Là...
Je rappelle que les Jeux Olympiques, c'est il y a un peu plus, même pas un an et demi, hein.
Oui,
mais on avait mis les moyens, mais c'était sur 15 jours.
Et puis, ce n'était pas sur les mêmes lieux.
Oui, certes, il avait fallu déployer d'énormes moyens.
Oui.
Et ça coûte cher.
Ça coûte cher aussi.
Nicolas
Bonleu. Il aurait fallu les organiser. Vous parliez tout à l'heure d'un enjeu de pacification. Pour moi, l'enjeu aujourd'hui, c'est un enjeu de restauration de l'autorité. Un enjeu de maintien de l'ordre, de restauration de l'ordre. Aujourd'hui, dans notre société... Notre société se comporte comme si elle marchait la tête à l'envers. Les casseurs, qui sont une minorité, empêchent l'immense majorité des honnêtes gens d'avoir les honnêtes activités d'une fête de famille le soir du premier de l'an. Le rôle de l'État, c'est d'empêcher ça. Si l'État renonce à empêcher ça, l'État renonce à son rôle. La restauration de l'autorité est aujourd'hui la cause principale, enfin le manque d'autorité, pardon, est la cause principale de cette situation. Ce n'est pas la société qui évolue, c'est l'État qui est incapable de faire preuve d'autorité. Remettons l'État dans une situation de faire preuve d'autorité, rétablissons l'autorité. Et évidemment que ce ne sera pas simple. Je suis bien d'accord avec vous, il faut des moyens, il faut de la volonté, il faut de la volonté politique. Il faut simplifier les procédures du côté de l'intervention de la police comme du côté de l'institution judiciaire. Le travail est immense. Mais c'est tout à fait possible. La restauration de l'autorité, c'est possible, à condition qu'on la veuille, évidemment, à condition qu'on en fasse un vrai projet de société, un vrai projet politique.
Et une priorité, si je comprends bien.
Une priorité. Ce jour-là, quand on aura restauré l'autorité de l'État, on pourra à nouveau aller à la fête, à toutes les fêtes qu'on voudra, sans d'ailleurs risquer de se faire percuter par des voitures béliers. Vous avez vu, je digresse, mais vous avez vu l'extrême honte que constituent tous ces marchés de Noël qu'on est obligé de protéger aujourd'hui pour être sûr que...
Mais pas seulement en France.
En Occident. Mal de l'Occident. Non, mais c'est un mal qui touche l'Occident en général, la France en particulier. Je pense que la France est plus touchée que les autres, mais l'Occident l'est. Et donc on est obligé de protéger les innocents citoyens qui vont au marché de Noël contre, je le redis, une poignée de terroristes, de casseurs, qui pourraient
poignée,
faire des ravages énormes.
Oui.
Par rapport au nombre de citoyens total. C'est ça que je veux dire.
Il faut espérer que c'est quand même une minorité dans nos sociétés. Julien Clotte.
Oui, alors, vous parlez de ce qui se passe en Occident, mais en fait, il y a beaucoup d'attentats qui se produisent aussi dans des pays d'Orient. En Asie, il y a beaucoup d'attentats dans des pays musulmans et des musulmans qui sont assassinés par d'autres musulmans. Pas récemment, mais les années passées, il y avait eu beaucoup d'attentats. Sauf que c'est lointain, on en parle beaucoup moins, mais néanmoins, le nombre de morts dans des attentats en France est moindre que ce qu'il peut y avoir ailleurs. Donc là, il ne faut pas dire que c'est un problème uniquement de l'Occident. Hein, c'est un problème, je pense, dans le monde entier. Vous, votre solution, c'est la restauration de l'ordre et de l'autorité. Et vous avez dit, la société, c'est pas la société qui évolue, c'est l'État. Moi, je trouve que la société, elle évolue, elle devient plus violente. Et la solution, pour moi, n'est pas de mettre un policier et de restaurer l'autorité. C'est d'abord, comme je l'ai dit, je pense qu'on a une vision différente de projet de société. C'est plutôt ramener de la concorde dans notre société, construire, faire du lien, travailler ensemble. Je pense que le fait de s'entendre bien, ça peut éviter peut-être d'avoir à embaucher beaucoup de policiers. Vous parliez de la dépense publique tout à l'heure. Le fait qu'on s'entende bien et qu'il n'y ait pas besoin de 15 gendarmes ou policiers pour surveiller des manifs, ça réduirait les impôts. Voilà. Donc, je pense que travailler sur la concorde en France avec toutes celles et ceux qui y habitent serait une meilleure réponse plutôt que essayer de restaurer l'ordre et l'autorité.
Oui. Monique Iborra.
Il n'y a qu'à voir la violence à l'Assemblée.
Oui, vous êtes bien placé pour en parler.
Il y a qu'à voir à quel point, en effet, cette violence, c'est pas uniquement, en effet, l'autorité ou un pouvoir autoritaire qui va pouvoir le régler. Ce serait trop facile, hein, d'ailleurs. Hein. Réellement, pour ce cas-là, il y a eu, je prends l'année dernière, 6000 policiers qui ont été présents. Sans doute faut-il l'équivalent. Faudrait-il l'équivalent. Je suppose que si c'était un problème d'effectif, ça aurait été réglé. Je pense. En tout cas, on ne peut pas dire le contraire.
On peut se poser la question, tout de même.
On n'en sait rien. Pourquoi l'année dernière...
Mais s'il faut un peu plus
d'effectifs
chaque
l'année dernière,
année,
alors qu'il y avait 6000 policiers,
embêtant.
Pourquoi cette année aurait-il... moins de policiers? Non, je
mais
crois...
Mais peut-être qu'il y a plus de risques, peut-être que 6000, c'est plus assez.
Non, mais écoutez, alors si vraiment, il faut encore ajouter des policiers, simplement...
Mais c'est sans doute ce qu'a jugé la préfecture de police.
Oui, mais on peut toujours dire ça, on peut toujours dire... Chaque fois qu'on a un problème, au niveau des organisations syndicales, c'est aussi ça souvent, chaque fois qu'il y a un problème, c'est un problème de moyens et un problème de... Mais vous comprenez que dans le cas particulier, encore une fois, on n'a pas les éléments. Est-ce que la menace terroriste existe?
Oui,
est-ce qu'elle pourrait exister? Auquel cas, 6 000 policiers, C'est certainement pas suffisant. Ouais. Est-ce pour autant qu'il s'agit d'un concert qu'on peut voir à la télé?
Oui, parce qu'il a été enregistré avec des figurants.
Et le feu d'artifice est garanti.
Oui.
Bon, écoutez, c'est pas un drame, quoi. C'est pas un drame.
En soi, c'est pas un drame. C'est plutôt ce que ça révèle, si vous voulez.
Mais ça révèle que on est dans une société.
On peut vivre sans ça.
Qu'on est dans une société violente et que. Je pense que s'ils avaient dit OK, et s'il était arrivé la moindre des choses,
bien sûr.
J'imagine bien sûr. D'abord pour les personnes qui auraient été atteintes, ce qu'on aurait pu dire. Alors, soulever ça, sur ce point, et uniquement sur ce point, alors là, vous dépassez, vous, évidemment, mais sur ce point, je trouve que c'est une polémique qui n'a pas de raison d'être.
La question qui se pose, c'est est-ce que maintenant, à chaque fois qu'il y aura un grand événement festif ou sportif en France, hein, est-ce qu'on va être obligé de se poser à chaque fois la même question? On organise ou pas? Est-ce qu'on prend le risque ou pas? Moi, c'est plutôt ça que je vois qui est inquiétant tout de même. Nicolas Bourleux, peut-être pour terminer sur ce sujet.
Si. Ouais, très rapidement, on peut trouver toutes les excuses du monde. On peut regarder le concert à la télé, mais on peut aussi faire le réveillon en famille, chacun dans sa chambre, et puis le faire par ordinateur. Bien sûr qu'on peut décider de capituler devant les casseurs.
Mais c'est pas capituler.
On peut décider de capituler, mais on peut aussi décider de se battre. Et moi, j'aimerais dire que vous parliez d'augmenter les effectifs policiers. Je n'ai absolument rien contre ça, mais la solution ne réside pas nécessairement dans l'augmentation des effectifs policiers.
Mais surtout que c'est sans fin.
Il y a la facilitation de la tâche des policiers pour arrêter les délinquants. Il y a la sévérité du système judiciaire. Rappelez-vous, la dernière fois qu'il y a eu des casseurs dans Paris, c'était un match de Coupe de France, d'Europe, pardon, excusez-moi, je ne suis pas très familier avec le foot. Bref, il y a eu une finale et il y a eu des casseurs dans Paris. Les policiers ont arrêté un certain nombre de casseurs. Vous avez vu les peines. Ils ont été déférés en comparution immédiate. Les peines. Ces types-là, ils ont été relâchés immédiatement avec quelques peines parfois de travaux d'intérêt général. Évidemment qu'on ne les décourage pas. Et même quand on les attrape, on ne les décourage pas. Et donc, il y a tout ce sujet à remodeler, à refaçonner pour donner le signal aux casseurs, aux délinquants, qu'ils ne s'en sortiront pas indemnes. S'ils continuent à casser, s'ils continuent à terroriser la population, il y aura des conséquences. Il faut remodeler tout ça. Et ça ne veut pas nécessairement dire plus de police.
Vous savez, juste un mot. Mais si on continue, par exemple, je parle là des partis politiques, parce qu'il faut quand même aussi en parler. Si on continue à monter les gens les uns contre les autres, à désigner des coupables en fonction de la couleur de la peau, ou avec ce genre d'argument, mais si, ça existe. On va pas supprimer la violence. La violence de la société, eh bien, elle existe et on est tous.
Il n'y a pas de nulle part. Donc il faut se poser la question.
On est quand même. Il y a quand même des partis politiques. Il faut bien dire la réalité des choses. Qui les exacerbent, clairement, que ce soit à l'extrême droite ou que ce soit à l'extrême gauche. Et donc, le fait de dire, en effet, il nous faut la sécurité, on est peut-être trop laxiste sur la sécurité, il n'empêche que avoir un gouvernement qui, on peut le voir venir hein, d'ailleurs, hein, avoir un gouvernement qui restaurerait tout d'un coup la sécurité, serait nettement insuffisant si on continue à avoir dans la société des partis politiques qui, finalement, fomentent cette violence.
Je pense, là je suis d'accord avec vous, qu'il vaut mieux agir sur les causes, plutôt que d'essayer d'agir sur les conséquences. Bon, on va clore ce sujet, on va profiter des dernières minutes de cette émission pour que vous puissiez partager avec nos auditeurs vos coups de gueule ou vos coups de cœur du jour, du moment. C'est Julien Klotz qui commence.
Bien, donc vous nous avez, en préparation de cette émission, effectivement demandé qu'est-ce qui nous a agacé, choqué, mis en colère dans l'actualité nationale ou internationale. Moi, ce qui m'a agacé en regardant différents médias auxquels je lis régulièrement, c'est que je voulais venir plutôt que de venir avec un coup de gueule et dire être dans quelque chose de positif et de constructif plutôt que d'être dans une critique, quelque chose. Et je n'ai trouvé, malheureusement, sur les deux derniers jours, aucune bonne nouvelle dans les médias. Et donc, c'est ça mon coup de gueule aujourd'hui, c'est que j'ai trouvé aucune bonne nouvelle dans les médias. Et alors, c'est pas seulement une question de médias, c'est aussi effectivement qu'aujourd'hui, notre pays, comme Mme Yebora l'a évoqué, et puis vous aussi, d'une autre manière, quand même. dans une situation difficile. Donc oui, il y a des conflits, il y a des tensions. Il y a, après, bon, j'ai parlé côté emploi, il y a l'intelligence artificielle qui arrive et qui peut menacer quelques emplois. Enfin, il y a le réchauffement climatique. Ouais. Puis les inquiétudes peuvent être multiformes. Et donc, c'est un constat. Donc, je pense qu'il faut se battre contre ça, puisqu'on ne va pas se laisser faire. Si on est là, je pense que c'est parce qu'on est engagé et qu'on ne va pas se laisser faire. Et mon vœu, ça serait qu'on puisse le faire ensemble, en essayant de rétablir de la concorde dans notre pays. Voilà, je pense que là, on se rejoint.
Coup de cœur contre la morosité ambiante et coup de cœur pour essayer de nous retrouver autour d'un idéal commun de société. Monique Iborra.
Alors, ce n'est pas de coup de colère, parce que, bon, on arrive à la période de Noël, il faut quand même, la fin d'année, il faut quand même avoir un peu d'espoir. Mais si ce n'est de la colère, c'est même pas de la déception, parce que c'était prévisible, ce qu'on voit aujourd'hui à l'Assemblée. Quand on voit sur le budget ce qu'on voit et ce qu'on entend, c'est insupportable. C'est insupportable pour, je pense, le citoyen et la députée que je suis. C'est insupportable. Mais je me calme parce qu'on va vers les fêtes et qu'on a besoin de sérénité.
Et d'apaisement. Nicolas Bonleu, c'est vous qui allez conclure.
Absolument. D'abord, je partage ce que vous avez dit. Et vous l'avez très bien dit. Bravo. Alors, moi, j'ai un chagrin. J'ai un chagrin.
Décidément.
Il y a des personnes. Non, j'ai pas beaucoup de chagrin. J'en ai un là que je partage avec vous. Il y a des personnes qui sont allées empêcher les marchés de Noël de se tenir, dégrader les sapins, dégrader les crèches. Et je me dis, comment a-t-on pu en arriver là? Comment peut-on se détester soi-même suffisamment? Comment peut-on détester notre société suffisamment pour aller faire des choses comme ça, empêcher les gens qui ont envie de se réunir innocemment pour célébrer ce qu'ils veulent célébrer? Comment est-ce qu'on peut arriver à comment notre société peut-elle générer des gens qui sont tellement qui ont une telle détestation de notre civilisation? Et c'est un vrai chagrin. J'ai évidemment pas de réponse. Je veux juste dire que j'ai lu ça dans les journaux comme vous ces jours-ci et ça m'a beaucoup affecté.
Bon, on a du mal à trouver des bonnes nouvelles, décidément. Ben, c'est comme ça. C'est la fin de cette 211e mêlée de l'info. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé.
Merci à vous.
Merci aussi à Coraline Camebrac qui a assuré la réalisation de l'émission.
Merci à Coraline.
Le podcast est disponible et téléchargeable dès maintenant, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci bien sûr à tous nos fidèles auditeurs ainsi qu'à ceux qui découvraient la mêlée. Rendez-vous jeudi prochain. À bientôt. We'll be right back.